Chablais. Suivez-nous, on vous suit. Quotidien durant la nuit.
Par ici la visite sur Radio Chablais.
Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Chantait Marie Laforêt il y a 60 ans. Christian Chulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, après le Gramont, les Diablerets et les Dents du Midi le week-end dernier. Nous nous trouvons à nouveau en terre vaudoise pour évoquer un dernier sommet magnifique de la région.
La chaîne montagneuse face à laquelle nous nous trouvons est décrite en 1848, mais c'est toujours valable de nos jours, comme une arête longue, massive et hérissée de dents, parmi lesquelles on remarque, en allant de la Dent de Morcle au Diablerets, celle de la Tête Noire, de la Pointe Favre, aussi appelée Dent Favre, du Grand et du Petit Muvran. Le Grand Muvran, géant solitaire, porte sur ses lourdes épaules deux glaciers. Au midi, celui de Plan-Névé, au nord, celui de Panéros. Et cette arête, elle délimite les cantons de Vaud et du Valais.
Continuons donc, Christian Chulet, par le plus majestueux de ces sommets.
À tout seigneur, tout honneur, commençons par le Colosse, celui qui est désigné comme l'un des géants de la chaîne des Alpes vaudoises, le majestueux Grand Muvran, aussi appelé anciennement Mauvran ou Moévran, un Grand Muvran qui culmine à 3061 mètres d'altitude et qui est constitué par trois arêtes qui se rencontrent au point culminant. Parmi les évocations dont il fut l'objet figure celle de l'écrivain et professeur de littérature française Eugène Rambert, dont le nom est par ailleurs gravé en hommage dans le rocher à Pont-de-Nant. Eugène Rambert qui publia en 1871 un ouvrage intitulé « B et ses environs, guide et souvenirs ». La description qui suit en est tirée. Le Muvran, qui se dresse de toute sa hauteur au-dessus du vallon des Plans et le domine de 2000 mètres, n'a que de petits glaciers cachés dans les replis de ses flancs. Vu de la vallée, il ne présente qu'un immense massif de rochers. Ce n'en est pas moins une de ces montagnes auxquelles on s'affectionne. La façon dont il dresse sa tête chauve n'est pas d'une cime vulgaire. Il la porte haute et fière, mais sans morgue ni ostentation. Le profil en est pur autant que sauvage. Et il y a dans cette masse décharnée, je le sais, quelle noblesse native, quelle grâce hardie qui attire et retient.
Poète.
Si ce n'est pas beau, effectivement.
Oui. Christophe Chollet, la montagne attire aussi les amoureux de la pratique sportive.
Oui, le goût et la pratique de l'alpinisme se développent dans la seconde moitié du 19e siècle et le massif attire les touristes. L'arrivée du chemin de fer à Baie en 1857 facilite par ailleurs l'accès au vallon des Plans et aux montagnes environnantes. Dans ce contexte est envisagée la construction d'une cabane dans le massif des Muvrans. À l'initiative des guides des Plans et de Grillon, la section des Diablerets du club alpin suisse décide en 1894 d'y établir une cabane qui rendrait de très grands services pour toutes les excursions dans le massif du Muvran. La cabane en bois est construite par un charpentier lausannois et elle est acheminée, démontée par chemin de fer jusqu'à la gare la plus proche, qui est celle de Ride, puisqu'en effet elle sera montée par le versant valaisan. Des guides de Frenières et de Grillon ainsi que des vignerons de Létron transportent ces matériaux jusqu'à la frette de Saille, l'emplacement qui a été choisi pour l'érection de ce petit hôtel de montagne et qui se situe entre le Grand et le Petit Muvran.
Une fois que la cabane est construite, on l'inaugure ?
Exactement, Pierre, cette cabane de 21 places est inaugurée le 20 juillet 1895. Et elle est baptisée tout naturellement Cabane Eugène Rambert au Muvran. En effet, Eugène Rambert, qui était décédé 9 ans plus tôt, véritable écrivain alpin, fut en effet, en outre, parmi les membres fondateurs du club alpin suisse. Donc il était vraiment tout désigné pour donner son nom à cette cabane. Celle-ci est située à une heure de marche du sommet du Petit Muvran, qui lui atteint 2820 mètres, et qui est décrit comme une pyramide rocheuse à laquelle on accède par le versant valaisan, un versant revêtu d'une verdure qui lui a parfois valu le nom de Verdant. Et cette cabane, elle est agrandie par une annexe en 1910, puis transformée en 1920, avant d'être démolie en 1953, suite à la construction d'une nouvelle cabane à un emplacement plus favorable.
Mais retour en 1900, Christian Chollet.
Le massif des Muvrans fait partie du décor somptueux que découvrent cette année-là les invités qui prennent place à bord du convoi d'inauguration du chemin de fer de Baie à Grillon. Le Muvran donne son nom à plusieurs hôtels et rues jusqu'à Lausanne et même jusqu'à Échandon. Et il est représenté par de nombreux artistes, dont le peintre chablaisien Frédéric Rouge et l'illustre Ferdinand Audeler, qui séjourne à Chezières en 1912 et peint à cette occasion le Grand Muvran. Eugène Rambert, pour revenir à lui, écrivait que le Grand Muvran avait été orienté par la nature pour resplendir à la tombée du jour. Aucune montagne en Suisse ne s'illumine plus entièrement aux rayons du soleil. Ce n'est pas de la pierre, c'est de la braise. Une montagne incandescente, écrit-il encore. Et c'est sur cette note lumineuse et chaleureuse que prend fin cette série hivernale consacrée à quatre montagnes emblématiques de notre région.
Christian Chollet, merci beaucoup. Nous nous retrouverons, quant à nous, l'été prochain pour de nouvelles histoires liées à la région. À bientôt.
C'était un plaisir, à bientôt.
Et dès la semaine prochaine, et à l'occasion des 40 ans de Radio Chablais, nous découvrirons tout au long de 2024 la région sous toutes ses facettes. Et l'Association du Chablais est notre première invitée, donc rendez-vous la semaine prochaine.
Par ici la visite.
Radio Chablais, programme de nuit. Quatrième de couverture, la chronique littéraire sur Radio Chablais.
9 mm et des poussières, c'est le titre d'un thriller paru en auto-édition. Son auteur est avec nous, Sandrine Spicher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes installée à Aigle, journaliste, écrivaine. Vous avez publié votre premier polar en 2019, La cire et le feu. Suivront d'autres aventures. Vous écrivez également des nouvelles, des contes et des romans feel good. Sur la quatrième page de couverture de celui-ci, on peut lire « Gaëtan n'est pas compliqué, il aime son job de flic, il aime son fils. Gaëtan n'a qu'un problème, sa violence qu'il canalise comme il peut. » Justement, dans son travail, Sandrine Spicher, Gaëtan sait qu'il n'est pas le meilleur élément.
Oui, il est conscient d'avoir plein de problèmes de gestion de ses émotions. Il a tendance un peu à péter un câble quand il s'énerve. Mais après, il a aussi des collègues qui sont... un collègue en particulier qui est très présent, qui est plus qu'un collègue, c'est un ami. Et puis qui est justement là un peu pour le calmer et puis l'aider à gérer les situations qui pourraient tourner au vinaigre.
Dans sa vie privée, Gaëtan a une sœur, Jasmine. Elle habite certes au Canada, mais leur relation est très forte.
Oui, c'est deux personnes qui se comprennent en fait sans avoir besoin de se parler. Ils arrivent à capter les émotions de l'autre. Et puis ils ont cette relation qui est surtout une relation téléphonique, où quand il y en a un qui va pas, ben il appelle l'autre et puis ils se font un peu des coups de fil comme ça à travers l'Atlantique. Et c'est vrai que c'était assez drôle à écrire parce que dans mon livre, c'est surtout des épisodes de la vie de Gaëtan qui sont racontés. Et puis il fallait que je calcule un peu le décalage horaire pour que ça soit cohérent quand même, les coups de fil entre Lausanne et le Canada.
Gaëtan aime son fils Antonin, il a été dit. En revanche, Sandrine Spicher, les contacts avec la mère du petit garçon sont difficiles et le terme est faible.
Ils sont conflictuel, on dira plutôt. Et puis, c'est quelque chose qui est encore une fois lié au problème de gestion des émotions de Gaëtan, que son ex-femme, donc la mère de son fils, elle n'arrive plus à supporter le fait qu'il puisse être violent de cette manière. Et donc, elle fait tout pour le tenir éloigné du petit garçon parce qu'elle a peur qu'il puisse arriver quelque chose.
Restons sur Gaëtan encore un instant. Il fait du sport donc pour essayer de canaliser sa violence. Et dans une salle de sport, il fait une rencontre.
Oui, il rencontre Laurine qui est... une jeune femme qui travaille dans une radio d'ailleurs, radio fictive, que j'ai appelée Flon FM parce que ça se passe à Lausanne. Et puis cette jeune femme, c'est un peu une bouffée de fraîcheur pour Gaëtan. Il est, au lieu de rester coincé toujours dans son job, dans sa violence, dans ses relations conflictuelles avec son ex-femme, etc., d'un coup il a quelqu'un de nouveau et puis il commence une nouvelle aventure et c'est un peu... c'est un peu une bouffée de fraîcheur, quelque chose qui lui amène un peu de nouveauté dans sa vie.
Cependant, Sandrine Spicher, Gaëtan est un jour mêlé à une enquête. Que s'est-il passé ?
Alors, c'est toute sa faute. En fait, on pourrait croire qu'il a de nouveau fait des choses qu'il ne fallait pas faire et puis que ça lui retombe dessus. Donc, je vais essayer de ne pas trop en révéler parce que c'est quand même le cœur de l'intrigue, c'est le fait qu'il soit mêlé à cette enquête. Mais comme il est suspendu pendant quelques mois, il va essayer d'enquêter par lui-même. Et puis, on est toujours un peu sur ce fil entre essayer de trouver la vérité par des moyens qui ne sont pas ceux que prendrait la police et en même temps ne pas trop faire de bêtises pour ne pas se mettre encore plus dans des problèmes qu'il ne l'est déjà.
9 mm et des poussières, c'est le titre de votre thriller, Sandrine Spicher. L'écriture de ce roman a d'ailleurs été une véritable aventure pour vous aussi.
C'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps. C'est surtout le personnage en fait que j'ai imaginé il y a longtemps, qui était d'abord inscrit dans une intrigue qui n'avait rien à voir avec celle-ci. Et puis je l'ai fait relire à des amis qui m'ont dit ça va pas du tout. Donc j'ai changé l'intrigue, je l'ai refait relire. On m'a de nouveau dit il y a des incohérences. J'ai re-rechangé. Enfin tout ça pour dire que oui, ça a pris du temps et plusieurs réécritures avant d'arriver au produit que je présente maintenant et qui finalement je trouvais assez abouti. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à voyager avec ce Gaëtan et j'espère que ce plaisir sera partagé avec mes lecteurs et lectrices.
Découvrez donc 9 mm et des poussières, un thriller paru en auto-édition. Toutes les infos se trouvent sur votre site internet sandrinespicher.ch. Merci beaucoup d'avoir été un instant avec nous.
Merci à vous pour l'invitation.
Quatrième de couverture. Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
Une lesnoude se prépare pour le concours de Miss Suisse francophone. C'est prochainement, on va en parler avec justement la candidate qu'on a envie de soutenir et qui, on espère bien sûr, va gagner. Alizée Delgado, bonjour.
Bonjour Cyril.
Alors nous expliquez déjà, c'est quoi brièvement le concours Miss Suisse francophone ?
Alors Miss Suisse francophone, c'est un concours qui existe depuis 2012. On est à la 13e édition qui réunit garçons et filles de toute la Suisse.
Donc c'est Mister et Miss.
Les deux en même temps, exactement, contrairement à d'autres pays. Et c'est un concours de beauté pour laquelle la beauté physique ne représente que 30%. Le reste, c'est beaucoup de la personnalité. Et on est très actif sur une période de 9 mois environ. Donc on est déjà bientôt à la finale.
Alors justement, la finale, c'est quand et où ?
Alors, ce sera dans la région lausannoise.
On
c'est
pas
la
droit de
seule
dire
chose que j'ai le droit de vous dire. Ça sera le 30 juin.
Le 30 juin en région lausannoise. Alors, maintenant, justement, puisque on est bien d'accord que vous êtes une très jolie femme, mais comme ça, on ne représente que 30%, on va s'occuper des 70% restants. Vous êtes qui, Alizée ?
Radio Chablais. Suivez-nous, on vous suit.
Alors, les randonnées, beaucoup de marches, ouais, beaucoup de sport. Et je crois que vivant à Lézin, il n'y a pas mieux pour
aller se balader. Il y a largement de quoi s'occuper. Alors, Loïc développera prochainement dans son émission le sujet du concours en lui-même. Vous, maintenant, alors justement, comment on se prépare pour ce concours? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je pense que chacun a ses petits trucs et astuces. Tips. Exactement. Je dévoilerai du coup pas tous les miens ici. Mais c'est en tout cas pour ma part beaucoup de travail.
C'est-à-dire
Je me suis entourée.
Faut apprendre à défiler, faut apprendre à se mettre en avant.
Exactement. Okay. Exactement. Je fais de la danse juste à côté, à Montet.
Okay.
Je me suis beaucoup entraînée avec un prof au niveau du défilé. J'ai un tapis de course sur lequel je marche en talons tous les jours.
Pardon, c'est génial.
C'est une excellente façon d'apprendre.
Je connais bien votre mari, qu'on salue d'ailleurs. Et franchement, je vais le mettre au défi de m'envoyer une vidéo de ça.
Mais je m'en occupe.
Donc il y a tout un coaching. Juste rappeler, on va faire une petite pause musicale. Comment on découvre le concours? Comment on suit votre actualité?
Les réseaux sociaux, ouais. Premièrement. Principal biais de communication, c'est les réseaux sociaux. Donc la page de tous les candidats et la page de Mister et Miss Francophone, ouais. Le site internet. J'en profite pour rappeler que les inscriptions 2025 sont ouvertes.
Ok.
Et les réseaux sociaux.
Bon, alors, on va aller suivre tout ça. Vous restez bien avec nous, Alizé Delgado, future Miss Suisse française.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
Toujours avec nous, Alizé Delgado, candidate Miss Suisse francophone. Le concours, ce sera le 30 juin prochain en région lausannoise. On peut suivre le concours de Miss Suisse francophone, bien sûr, sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Alizé, on a parlé de préparation tout à l'heure. Forcément, je me suis bien marré quand j'entends dire que vous vous entraînez en marchant avec des talons sur un tapis de course. Ah, je trouve le concept génial et je me réjouis de voir la vidéo. Mais plus sérieusement que ça, vous avez dit, c'est de la danse, il y a de la prépa. Alors, ça peut prêter à sourire, forcément,
oui.
Mais en même temps, ben non, parce qu'il faut être parfaite. Et on l'a dit en début d'émission tout à l'heure, en début d'interview, c'est un vrai concours, il faut prendre ça au sérieux. On ne gagne pas juste en y arrivant tranquille, les pieds en l'air, quoi.
Je pense pas non plus qu'aucune des 31 filles qui restent, aussi jolie soit-elle, soit née avec une paire de talons. C'est comme tout, il y a tout qui s'apprend, il y a tout qui se travaille. En tout cas, pour ma part,
ouais. La
force du travail m'a amené beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de qualités que je n'avais pas et que j'ai dû aller chercher par le travail, en m'entourant de coachs, de profs, d'aides.
En développant justement tout ça. Puis c'est intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre à se connaître soi-même. C'est un challenge personnel. Donc ça veut dire qu'on se met un peu, quoi qu'il arrive, dans le dur. On doit se forcer à faire certaines choses, travailler en fait, bêtement.
Exactement. Et ça demande du courage. Mais on ne parle pas assez de ce que ça donne en retour. Ça demande du courage,
alors,
mais ça
voilà. Donne
qu'est-ce énormément que ça apporte de force. Énormément de force. Alors bien sûr, un peu de confiance en soi.
Ce qui n'est pas plus mal.
Ce qui est toujours le bienvenu, suivant la personnalité de chacun, mais en tout cas, c'est toujours le bienvenu. Des relations, des liens d'amitié qui se tissent absolument extraordinaires, parce qu'on est tous dans une aventure qui dure 9 mois, finalement, avec lesquelles on va partager des choses hyper
proches. C'est ça, passer du temps et autres, ouais.
Passer beaucoup de temps. Il y a énormément de shooting, de défilés, de promo-tours. On est partout dans la région, on va jusqu'à Berne, Fribourg, le canton de Neuchâtel.
Que ce soit les hommes ou les femmes, hein, vous êtes toutes et tous ensemble et au taquet.
Exactement, alors le concours, il réunit les filles et les garçons,
ouais.
Contrairement à d'autres pays. Et nouveauté de cette 13e édition qui va se passer à la finale, vous aurez du coup la chance d'avoir Miss et Mister Suisse francophone 2024, mais également... Et ça, c'est une super nouvelle. Une représentante de chaque canton. Donc, vous aurez le retour de Miss
cool.
Canton de Vaud, Miss Valais, Miss Neuchâtel. Ça, c'est la grande nouveauté de cette année. Et c'est une très bonne, très, très bonne nouvelle. C'est très fédérateur.
Puis alors, même pour vous aussi, justement, peut-être d'aller découvrir fait, oui. Et justement, et puis de se dire, regardez, moi, je viens de ce coin de pays, c'est hyper chouette.
Oui, si j'ai l'occasion d'en parler...
Là, vous en profitez aussi.
À travers ce concours, j'en profite aussi, oui, ça c'est sûr.
Bon, alors, on rappelle, on vous suit Miss Suisse francophone, le concours, sur les réseaux, sur le site internet. Le résultat, quand vous gagnerez, ce sera le 30 juin, le 30 juin prochain à Lausanne, on l'annoncera en tout cas. Et puis, on rappelle aussi, vous serez bientôt en émission avec Loïc, justement, aussi, pour présenter le concours en lui-même. Merci Alizé.
Merci à vous, mais si je gagne, je reviens.
Eh ben.
Mètre et le hameau de Champé qui est vers les 1100 mètres. Alors, la curiosité touristique, on appelle ça le Crualours ou le Cralou, comment ça vient du patois.
C'est un ancien... C'était comment en patois?
On disait le cralo. Nous, on dit encore le cralo, ouais.
C'est beau.
Ouais, alors.
C'est beau le patois. Personnellement, j'adore. Et qu'est-ce que ça veut dire le cralo?
Alors, c'est le trou à l'ours. C'est un ancien piège à ours qui a été fait au 18e siècle, à peu près. Donc, il est vraiment âge. C'est quelque chose de précieux. C'est un endroit assez particulier. Les folataires, c'est dans cette réserve, on trouve, je dirais, a priori, plus de 200 espèces de faune, de fleurs qu'il n'y a pas ailleurs. Des endroits, je dirais, au niveau des espèces animales. On a des oiseaux qui sont vraiment en danger dans toute l'Europe, qu'on retrouve là. On peut penser au torcol fourmilier, au traquet tarier. Actuellement, on a un hibou grand-duc qui niche.
Oh.
Il y a quelques observateurs qui sont là, qui l'observent un petit peu, qui observent le nid et tout. Et puis, si on a de la chance, on peut voir le vol du gypaète qui vient d'Herborance.
Oh, et je crois même que il y a des gens qui ont découvert une nouvelle espèce de plante ici il n'y a pas longtemps.
Alors, effectivement, au niveau des plantes aussi, je pense qu'il y a maintenant le fameux bulbocode qui fleurit dès janvier, qui est bien connu. On a aussi plein d'autres fleurs. C'est un endroit où on a beaucoup de balades de la part de gens qui apprécient les balades. On a aussi des chercheurs, notamment des chercheurs de l'EPFZ, qui viennent et qui étudient. Et il y a quelques années en arrière, ils ont découvert encore une plante, c'est le petit pois de Fuy. Et je ne sais pas s'il était là déjà avant, en tout cas, il a été répertorié il y a seulement une dizaine d'années.
Waouh, le petit pois de Fuy, ah dommage, non, ça aurait dû être celui de Dorène.
Ouais, effectivement, mais on ne sait pas, hein. Ils sont toujours là, ils étudient, donc peut-être qu'il y aura une plante de Dorena spéciale.
Dorena, toute la semaine au programme du Nombril du Monde.
Radio Chablais.
Le Nombril du Monde. Radio Chablais, programme de nuit.
Un goût amer signale un végétal toxique. Et comme les légumes sont un peu amers, on les rejette. Ce serait un réflexe inconscient pour éviter de s'empoisonner. Donc c'est pas que le petit dernier vous enquiquinez, c'est juste un réflexe inconscient, qu'on se le dise. Le chocolat, lui, c'est un aliment de grande qualité malgré tout, bourré de minéraux. Ça stimule le cerveau, ça chasse les idées noires. À condition, on est d'accord, d'en manger peu sous forme de chocolat noir, car le chocolat au lait, lui, contient beaucoup de sucre et de graisse. Mais c'est celui que préfèrent les enfants, et Tuck, qui en avale 15 grammes par jour en moyenne, soit 6 kilos par année, et qui adore le chocolat. Notre corps, en fait, raffole du sucre, considéré comme une récompense. Et pour le gras, il y a sans doute là les vestiges d'un réflexe très ancien, celui de stocker de la graisse en prévision de périodes difficiles, de périodes de famine. Bref, en résumé, nous fonctionnons encore comme des hommes préhistoriques. Alors que nous ne risquons pas depuis belle lurette...
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais.
On va parler de détox ou de tri, si vous voulez. Et je me demande parfois, franchement, s'il n'y a pas une génération spontanée de stylos et autres crayons qui se clonent, c'est pas possible autrement. On a des dizaines de crayons tout genre, on les trouve un peu partout dans la maison, là rien de nouveau, dans les sacs, dans la voiture. Et compte de l'histoire, c'est que à chaque fois que tu as besoin d'un crayon, que tu cherches un crayon, tu le trouves. Mais alors, ou tu le trouves pas, ça c'est pire, des fois tu cherches partout, tu le trouves pas, mais alors tu le trouves et il marche pas. T'as beau l'essayer, il marche pas. Alors, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, on est bien d'accord, c'est énervant, ça nous énerve, ça sert à rien de s'énerver, c'est pas très serein, c'est pas efficace, mais ça va être fini pour vous, parce qu'un crayon qui ne marche pas, au lieu de le mettre à la poubelle souvent, qu'est-ce qu'on fait? On le remet là où on l'a trouvé, ou alors on le pose ailleurs, ce qui est totalement débile, vous êtes d'accord? Donc ça peut plus durer, donc on va faire une détox. Donc, la prochaine fois que vous prenez un stylo qui ne fonctionne pas, qui a l'extrémité mâchée, ou alors qui est tout baveux, vous vous dites, je le mets immédiatement à la poubelle. C'est une sorte d'opération coup de poing si vous voulez une détox de stylos et de crayons et recruter vos enfants pour vous aider à la chasse aux crayons. Déjà, c'est amusant et puis en plus, ça va peut-être les sensibiliser aussi à les ranger et en prendre soin. Alors, ce que vous faites, petit 1, c'est vous collecter, vous traquer tous les crayons dans toute la maison et vous les déposer tous ensemble dans un sac ou dans une boîte ou sur la table. Ensuite, vous purgez, c'est-à-dire que vous essayez chaque crayon sur un bout de papier ou sur une enveloppe récupérée où vous voulez et vous triez. Alors, vous jetez, vous éliminez, mais sans état d'âme, hein. Ceux qui ne fonctionnent pas, si vous en avez à triple, vous n'arrivez pas à le tailler. Bref, tous ceux qui ne font pas, qui vous plaisent pas, allez hop, via. Vous regroupez ensuite les crayons de même couleur et de même nature, feutre, crayon de couleur, stylo et tout. Et après, vous organisez, vous déposez un tas de crayons dans différents endroits que vous estimez être judicieux. Par exemple, un crayon dans un sac à main, dans la voiture, à la cuisine, à un salon, mais pas 10 000. Et puis après, vous créez une boîte ou des trousses avec des crayons que pour les enfants. Ou alors une trousse personnelle. Et vous en avez aussi en réserve, parce que le jour où celui que vous avez laissé à la cuisine ne fonctionne plus, vous le jetez et vous en prenez un nouveau. Alors ça paraît un peu cucu ce que je vous dis, je suis d'accord. Mais franchement, mettez-vous, soyez honnête, vous êtes d'accord que ça vous est déjà arrivé. Vous cherchez, vous ne trouvez pas, vous cherchez, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, vous allez être beaucoup plus serein. Et si on vous donne un stylo promotionnel, résistez à la tentation, parce que vous allez le laisser traîner, puis vous serez reparti dans la sphère infernale. Je ne sais pas vous, mais j'ai le sentiment qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir le crayon ou le stylo d'une autre manière.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Mais
plan large
jusqu'à 13h
entre émotion et évasion. Plan large
sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Michaël Caillou, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Morel, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on fait une petite exception dans cette émission en recevant deux personnes, deux artistes qui nous convient au crochetant à un foisonnement naturel. Les murmures de la forêt, c'est le titre de cette exposition autour de Bambi. Alors, c'est peut-être un peu court de dire autour de Bambi, Michaël Caillou, mais tout de même, déjà, vous avez le mérite de nous rappeler que Bambi, avant d'être un Disney, c'est un livre et qu'il a 100 ans, enfin, il a eu 100 ans
en 2023. En 2023, et en fait c'est à l'occasion de la sortie de ce livre donc qui fêtait les 100 ans cette année que j'ai eu l'occasion de proposer à Frédéric de venir avec moi au crochetant et d'exposer ensemble nos œuvres et d'être en immersion dans une sorte de forêt un peu fantasmée.
Fantasmée, foisonnante. Moi j'ai ce mot foisonnant dans la tête.
On peut
parler de cela aussi.
Un peu parfois inquiétante, un peu parfois solaire. Voilà.
Bon, Frédéric Morel. Bambi, ce personnage qui est dans l'imaginaire collectif, il vous a touché tous les deux ou
ben vous... Oui, il nous a touché tous les deux parce que je travaille aussi sur la nature, la chasse, la forêt. Donc le livre mettait en relief aussi le côté inquiétant de la chasse. Et je connais Michael depuis très longtemps et je suis infiniment reconnaissante de m'avoir invité parce que l'expo est merveilleuse.
Alors, en effet, c'est une expo originale hein, pour le crochetant.
C'est original. Alors, tout a été fait main dans la main avec Julien Hontou, commissaire de l'exposition. Et en fait, on a créé au fur et à mesure les décors. Les œuvres, pour la plupart, étaient déjà créées parce qu'en fait, le livre est sorti en octobre dernier. Et moi, en plus du livre, donc j'ai fait les illustrations, j'ai fait un travail de gravure et Frédéric a déjà travaillé depuis longtemps autour de pas de Bambi, mais comment on pourrait dire, autour de, oui, comme
si,
tu disais.
Bambi, c'est mon icône, c'est ma pièce principale.
Voilà, c'est la pièce principale.
Bon, on va expliquer un petit peu. Hein. Vous avez évoqué un livre, on en parlera. Vous avez la vraie histoire de Bambi.
Oui, hein, oui, oui.
Vous nous rappelez justement qu'il y a ce roman avant le Disney des années 40. Et puis, vous, Frédéric, alors, vous êtes dans une sculpture tapissière ?
Oui, alors c'est des formes...
Pas pâtissière, tapissière.
C'est des formes réalistes, puisque c'est les formes qui servent aux taxidermistes. Et après, je leur fais raconter une histoire, qui peut être une histoire de l'au-delà, de leur vie passée. Et c'est à base de tapisserie populaire, qu'on appelle parfois les canevas.
Bon, je vais voilà. décrire un peu parce qu'on n'a pas l'image hein, oui. à la radio. On a en taille réelle
des animaux,
principalement des animaux à bois. Hein, on est dans l'univers de Bambi, donc des cerfs, des biches. Et vous avez utilisé le mot taxidermiste. Oui. On pourrait imaginer qu'il y a un animal mort sous vos tapisseries. C'est pas le cas. Hein, les taxidermistes travaillent avec des canevas.
Ils revivent justement parce que les canevas permettent de raconter leur histoire parce qu'il y a des motifs, il y a des références très connues aussi dans ces motifs populaires. Je re-raconte une histoire comme une bande dessinée en collant ce textile sur les formes.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la tapisserie? Enfin, ce sont des tapisseries anciennes, on voit, ce sont pas des...
Vintage, parce qu'il y en a des très anciennes qui sont plutôt dans le secteur de la décoration, mais c'est justement ce côté populaire, ce côté que les gens aiment et que tout le monde peut aborder. Tout le monde peut aborder.
Il y a un côté simple d'accès, en effet. Il y a un côté un peu désuet aussi dans la tapisserie.
Oui, je l'assume, je revendique.
Vous utilisez vintage, qui est un mot peut-être un peu plus glamour. Bon, alors ça, c'est pour l'aspect en trois dimensions. Hein. Ce sont des sculptures qui ponctuent l'exposition de Michaël Caillou. Vous, alors, on est dans le dessin d'abord, puis... Alors, vous allez m'expliquer, parce que moi, je n'ai pas les termes techniques, je ne suis pas historien de l'art. Tout cela se termine parfois en gravure sur métal, sur du qu'est le métal, du bronze.
Alors c'est du cuivre.
Du cuivre.
Donc en fait moi à la base je travaille tous les dessins. En fait là en l'occurrence c'était donc on parlait du livre tout à l'heure. Moi je dessine tout au feutre fin et après j'ai plusieurs particularités dans mon travail, c'est que à la base ces dessins sont faits pour que je puisse faire mes gravures. C'est qu'en fait c'est des ébauches, des croquis à la base qui sont devenus après du design parce qu'en fait au fur et à mesure du temps des éditeurs sont venus me voir en me disant mais vos dessins nous intéressent pour des éditions. Donc premièrement j'ai fait les illustrations de ce livre et j'avais envie, parce qu'en fait moi je connaissais pas Bambi, l'histoire de Bambi en fait en réalité, parce que ma mère m'a fait zapper.
Ça on en parlera tout à l'heure, c'était intéressant.
Parce qu'elle voulait pas que je vois, donc j'ai jamais vu Bambi, en tout cas quand j'étais petit. Et donc du coup, De La Chaux m'a proposé il y a 2 ans de faire ce livre. J'ai découvert cette histoire et il y avait beaucoup de similitudes avec je ne suis pas un chevreuil mais j'ai été élevé tout seul par ma mère etc. et au départ je me suis un peu identifié à Bambi, je me suis dit, c'est presque moi mais bon je ne suis voilà.
Bon on va parler de Bambi et de son impact hein, tout à l'heure on a tous un petit traumatisme probablement
lié à cette histoire là. Moi j'ai pas eu ce traumatisme
dans votre travail. Vous disiez il y a une partie un peu cabinet de curiosité comme ça où on voit les dessins en détail des animaux hein. C'est le début de l'expo d'ailleurs.
Alors, c'est le début d'expo en fait, c'est un côté un peu didactique dans le sens où en fait on montre comment je travaille, Julia,
les études des différents animaux qui ensuite vont être intégrés.
Je pars toujours du dessin et après ça devient soit des gravures, soit des sculptures, plutôt des bas-reliefs, soit des illustrations, soit ça peut aller jusqu'à l'édition de produits. Moi j'aime bien un peu avoir une vision à 360 degrés de mon métier. Et donc là, comme on m'a proposé de faire l'illustration et que j'étais un peu touché par l'histoire, j'ai eu envie de travailler sur la gravure qui est plus mon travail personnel plastique. Et donc là j'ai fait mes dessins, j'ai reproduit mes dessins par la gravure, en découpant le métal, en gravant, en imprimant et en mettant en relief mes cuivres, qui devient un peu une sorte de bas-relief.
Ouais, ça, il faut expliquer. Voilà. Hein, les cuivres, donc, c'est ce qui permet d'imprimer une série de... Comment on appelle ça? De gravures.
De gravures moi, c'est des gravures à l'eau forte.
Voilà. On les numérote, ça c'est le principe. Et puis après, dans l'éthique du métier, on devrait les tracer ou les détruire pour pas pouvoir les reproduire à l'infini et qu'elles perdent de la valeur pour ceux qui les ont achetées, acquises. Vous dites, bon, non, je vais pas tracer, c'est quand même du boulot, mais je vais en faire une autre œuvre en fait.
Bah, à la base, si vous voulez, moi ce qui m'intéressait quand j'ai fait la gravure, c'était la matrice en cuivre. Qui devenait une sorte de bijou, voilà. Et donc effectivement, quand on fait de la gravure, on détermine un nombre d'exemplaires d'impression et on raye la plaque pour déterminer la
par
valeur.
Honnêteté,
voilà, 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 par honnêteté. Ouais. Et puis, moi, effectivement, je vais pas rayer parce qu'en fait, au préalable, je les découpe. Donc, c'est beaucoup d'heures de. En fait, c'est. J'ai fusionné deux techniques, la découpe du bijou à la main et la gravure à l'eau forte. Et donc, du coup, je passe énormément de temps à préparer mes plaques. Donc, évidemment, j'avais pas envie de les rayer.
Ouais, mais c'est pas deux coups de scie, hein. C'est vraiment pointilliste, voilà, ce que vous faites. C'est de, voilà, la dentelle, hein.
Et donc, pour ne plus imprimer, parce que je reste quand même, c'est pour moi, c'est au code de la gravure, au lieu de les rayer, je les mets en volume par des systèmes de repoussage, de ciselage, qui est des techniques de, voilà, de bijoux. Donc je mélange vraiment le bijou et la gravure à l'eau forte. Voilà.
Vous êtes un artisan-artiste, un artiste-artisan?
Alors je serais mon propre artisan. Donc voilà. Non, je dirais que plasticien. C'est qu'en fait, ce que j'aime bien, moi j'ai eu des formations, Frédéric était un de mes professeurs. Donc,
oui, il y a cette relation entre vous.
Moi j'ai fait une école où on touchait tous les supports, en fait, où il n'y avait pas de limite entre tel ou tel secteur, on va dire. J'ai même fait un peu de mode, j'ai même un peu c'était une époque où on gravitait un peu sur l'environnement, voilà. Donc
ça s'appelait mode et environnement,
voilà, hein, c'est ça. Mais voilà, je vais plus aller dans la plasticité, plus dans la gravure et parfois plus dans le design pour travailler avec des éditeurs.
Je vais vous donner aussi un peu des cours maintenant.
J'en ai donné
la pédagogie. Bon, mais en tout cas, vous, Frédéric Morel, oui, c'est une part importante de votre vie d'artiste, hein. La pédagogie, le fait de transmettre.
Oui, et la transmission, bien sûr, c'est un mot qu'on emploie bien beaucoup en ce moment, mais c'est absolument nécessaire si on veut faire la chaîne des savoirs, la chaîne des excellences, parce que là, c'est un peu ça. Je rappelle, Michael était un étudiant, exemplaire, et il a poursuivi, il a su ouvrir sur sa vie d'artiste, sur ses thèmes qui étaient déjà embryonnaires dans son travail et qu'il a su développer parfaitement dans la durée.
C'est pas commun, je suis pas vraiment baigné dans ce monde-là, mais c'est pas commun, une ancienne professeure qui expose avec son ancien étudiant.
À ce niveau-là, on n'apprend plus, c'est un dialogue entre le professeur, entre guillemets, parce qu'il ne professe pas, en fait. Mmh. Il essaye d'organiser ce qui est proposé par l'élève.
Voilà. Et maintenant, vous apprenez de votre ancien élève. Exactement. On va dire disciple, c'est bien disciple.
Oui, disciple, je ne sais pas. Parce...
Moi, je dirais un peu mon mentor. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est un peu, par exemple, cette exposition, le fait que Julia ait accepté Frédéric dans l'aventure, j'ai l'impression d'arriver à une étape. Moi, je rêvais de faire une exposition avec Frédéric parce que je la suis depuis très longtemps. Enfin, je la suis à l'école déjà. Je savais qu'elle faisait des créations. À l'époque, elle ne faisait pas ça. Mais déjà, c'était très. Je m'interrogeais comment elle pouvait faire ces espèces de structures, de feutres, très, très blancs, mais en même temps avec un raffinement. Donc, j'ai toujours été. Et puis, en fait, j'ai eu un crush avec elle quand j'étais à l'école. Et donc, du coup, moi, quand j'ai découvert ce travail, il y a quand même maintenant pas mal de temps, travail sur le canevas, je sortais presque de l'école. Tu étais déjà en parallèle.
Ça se concrétise maintenant avec une exposition commune. On travaille ensemble. Comment ça se passe? On va faire une exposition ensemble. Quel est le déroulement finalement? Vous avez un thème commun pour l'occurrence, c'est Bambi, c'est la forêt, les cervidés. Et vous travaillez chacun de votre côté. Vous vous rencontrez, vous vous montrez ce que vous faites. Comment ça se passe?
Là, en fait, le travail était la question était de savoir comment associer. Puis en plus, il y avait aussi Maya, où j'en parlerai après, qui a fait un travail de motion design sur le livre. Donc c'est mon ancien élève. Donc il y a
une histoire de la vidéo,
de la vidéo. Et donc il y a un dialogue, mais en fait, nous, on a échangé par des mots. En fait, on s'est dit, on veut quelque chose qui soit immersif, où on rentre dedans, quitte à que ça soit brouillé, que ça soit du mimétisme de l'animal sur le mur. Et donc, on s'est dit, on partait sur une forêt un peu. autour des quatre saisons quand même, qu'on ouais, a une sensation parce que le livre c'est quand même un éternel recommencement.
Moi j'ai jamais vu ça non plus, mais c'est il y a derrière les œuvres des papiers peints qui ont été réalisés exprès pour pour l'expo, hein, qui sont dans cet univers-là, qui ont les couleurs chaudes de l'été, de l'automne, froides de l'hiver.
Alors c'est pas des c'est des papiers peints parce que c'est le support.
Oui, j'avais peur en utilisant le mot papier peint qu'on me dise mais non monsieur, c'est pas du papier peint.
C'est pas du papier peint parce qu'en fait c'est pas vraiment au raccord, mais c'est des panoramiques, on va dire. C'est des mais c'est le en fait normalement ça peut être de la toile ou là c'est du papier peint parce que techniquement c'était, mais ça pourrait, effectivement les gens pourraient
fondu de Bambi pourrait très bien décorer son salon avec ce papier.
Parfaitement, hein, parfaitement.
Si vous rencontrez un psychopathe de Bambi,
faut avoir
lancé un business de papier peint, soyons clairs.
Bon, moi j'en ai déjà fait du papier peint, c'est un des mais là pour le coup c'était de panoramique, mais c'est le nouveau papier peint, les panoramiques.
Donc bon,
vous êtes pas complètement
par rapport au lieu, c'est impressionnant. Ouais. On est vraiment en immersion, c'est le mot que tu employais.
À la galerie du Crocheton jusqu'au 12 juillet, à voir cette exposition. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, on se retrouve toujours dans cette galerie du Théâtre du Crocheton à Monthey avec cette exposition Les Murmures de la Forêt autour de l'univers de Bambi avec nos deux invités Michaël Caillou et Frédéric Morel, les deux artistes de cette exposition à voir donc jusqu'au 12 juillet prochain à Monthey au Théâtre du Crocheton. Foisonnant, luxuriant, on l'a dit, moi j'ai lu et j'ai vu hein, ce lien avec l'art nouveau, avec alors j'ai regardé un peu, moi j'ai une mémoire artistique de Trivial Poursuite un petit peu hein, mais Klimt, Mucha, j'ai vu des portraits de femmes luxuriants, foisonnants. Est-ce qu'il y a ce lien à la nature aussi dans l'art nouveau?
Alors l'art nouveau, moi je suis plutôt Lalique. Donc en fait, parce qu'à la base, moi ce qui m'intéressait dans l'art nouveau, c'était les peignes. Moi j'ai tout un travail autour de ça, c'est le point de départ de mon travail, on va dire, artistique. Et après ça a évolué, en fait c'est des codes, c'est-à-dire qu'en fait l'art nouveau c'est un peu une façon de composer, le végétal devient la structure. En fait, l'art nouveau, c'est la structure devient esthétique. Et donc moi, je me suis surtout inspiré pour mes plaques de métal en fait, où d'un seul coup c'est une seule pièce et tout s'enchaîne. Voilà. Et donc c'est là où l'art nouveau pour moi est. J'ai pas forcément nécessairement dans la représentation humaine, même s'il y a des parties de corps. Moi, je travaille beaucoup les ex-voto, etc. Toi non plus. On la retrouve des fois dans les.
Il y a des mains, il y a des.
Voilà. Mais c'est évoqué, c'est-à-dire que de toute manière.
Bon, là, on est dans l'univers de Bambi où on sent que l'homme n'est pas loin, hein, parce qu'il est le méchant dans l'affaire.
Il est là, il est partout. Il est partout.
Il est sous-entendu.
Sous-entendu par le danger, par exemple, il y a des représentations avec des serpents pour Frédéric. C'est le danger, et puis bon, de toute manière, dans le roman initial de Félix Salten qui a écrit Bambi, c'est un roman d'éducation pour montrer que la nature n'est pas si merveilleuse que ça. Au contraire, elle peut être dure en réalité. Donc
on va revenir à Bambi, mais j'aimerais juste un mot encore. Frédéric Morel, on s'inscrit forcément dans l'histoire de l'art. Quand on crée, on a des références en tête, ou est-ce qu'il faut, une fois qu'on les a étudiées, qu'on les connaît, il faut les balayer, il faut les mettre de côté?
Quand on n'a pas de référence, on est dans l'art brut, qui est d'ailleurs un merveilleux musée à Lausanne. On a des références très fortes à l'art en général, et on se situe ou pas d'ailleurs, mais il y a une influence.
En l'occurrence, c'est Julia hein, qui a fait le dossier que moi j'ai lu et probablement qui a illustré un peu cette exposition, et c'est elle qui m'a amené vers cette notion d'art nouveau. Elle est importante, cette notion, pour vous, création.
C'est mon point de départ. C'est qu'en fait, moi avant j'étais j'ai eu plusieurs carrières, on va dire, où j'ai toujours travaillé personnellement sur mes thématiques, etc. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de travailler justement cette gravure, ce travail de découpe en métal. Et mon point de départ, c'était une exposition aux Arts Déco où il y a une pièce permanente de bijoux. Et j'avais vu ces fameux peignes sur le mur, et donc je me suis dit, je vais travailler la gravure comme des bijoux muraux. Et donc c'est mon, on va dire, et donc c'est toujours là. Mais moi, depuis longtemps, mes thématiques, c'est mes vacances, je dessine tout, partout où je suis. Donc en fait, mais je pense qu'inconsciemment, elle revient dans mon travail. Mais ça fait longtemps que l'Art Nouveau est, on va dire, sous-jacent, mais pas forcément. À chaque fois, je vais pas me dire, ah, là, je fais de l'Art Nouveau.
Il faut que je sois un peu plus Art Nouveau, voilà.
Pas du tout. Mais bon, c'est par
évidemment,
les principes.
On crée son univers, voilà. avec son bagage.
Ça existe avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'esthétisme. Ça m'a toujours intéressé. J'adorais. On a eu des cours sur Guimard, sur les. Moi, je suis très déçu à Paris. On a retiré, par exemple, toutes les entrées de métro. Art Nouveau, ouais. Par exemple.
Mais peu.
Donc voilà, il y a à côté un peu, j'ai un peu un côté désuet dans mes goûts, voilà, de ça.
Une nostalgie. Bon, parlons de Bambi. Hein, quelle affaire ce Bambi. Je vous en veux un petit peu de m'avoir remis dans mes traumatismes d'enfant. On a tous.
Oui, moi, c'est un traumatisme.
Mais oui, bon, alors,
moi,
voilà,
j'ai pas été traumatisé.
Oui, mais justement, c'est intéressant parce que je me demandais en venant vous voir, est-ce qu'on peut encore montrer Bambi, là, pour le coup, le dessin animé, ou lire le livre, parce que la cruauté, j'imagine, du meurtre de la maman, on va dire les mots, et là, dans le livre aussi, bien sûr. Est-ce que c'est encore abordable pour un enfant du 21e siècle? Même vous, on a voulu vous éviter ça.
Alors, je pense que c'est extrêmement moderne, surtout avec les évolutions pédagogiques, je ne sais pas comment dire, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais je vois mes amis autour de moi qui ont beaucoup d'enfants. C'est, à la base, Félix Salten, pour lui, c'était un roman d'éducation. Donc, et il faisait parler les animaux pour dire des choses. C'est vrai que moi, j'avais une lecture assez, on va dire, neuve. J'avais pas forcément connu.
Le dessin animé, vous l'avez pas vu, donc vous n'étiez pas dans cet univers-là. Ouais.
Alors après, si vous voulez, j'ai des images, c'est-à-dire que je voyais Bambi, on m'en a parlé, il y a la mort de la mère, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, mais tardivement, donc ça m'a pas perturbé plus que ça.
Mais ça, je pose cette question parce qu'on a quand même une littérature destinée aux enfants. Si on prend les contes du 19e, c'est extrêmement cruel. La mort est là, toujours. Et puis, on a dilué ça au 20e siècle. On s'est éloigné de la mort. Vous nous le démontrez, là, avec Bambi.
C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui me fait peur, c'est la mort, évidemment. Mon travail, c'est justement... Hier, on me parlait, on me disait, c'est assez marrant, parce qu'il y a quand même assez un contraste avec le travail de Frédéric, qui peut parfois être plus inquiétant. Moi, mon travail est beaucoup plus, on va dire, de façon extérieure, plus facile, plus enfantin.
Dans le livre, comme dans l'expo, vont pas être confrontés à une image de mort brutale. Il n'y a pas de sang qui gicle, etc.
C'est plutôt de l'humour, je pense. Mais en fait, il y a quand même une thématique qui, moi, c'est des natures mortes, par exemple. Je travaille, ma signature, c'est la mouche. Donc déjà, c'est quelque chose qui était pas forcément, qui était en lien avec mon travail personnel. Et après, je pense que avoir peur, c'est pas forcément nécessairement bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que les, moi, j'ai perdu ma mère assez tardivement. Et justement, ma mère m'a tellement protégé que ça a été un énorme choc. Donc, parfois, il vaut mieux savoir ce que c'est, enfin, de façon pédagogique. Et c'est vrai que ce genre de livre, quand on le lit, c'est pas. On dirait que la violence, elle est plus entre les animaux que finalement. Et c'est vrai que Walt Disney en a fait quelque chose de très édulcoré, parce qu'en fait, finalement, ce qui est choquant dans ce dessin animé, c'est la mort de la mère. Mais c'est quasiment ce qu'il a gardé uniquement de l'histoire. Alors que si on lit l'histoire globalement, on est dans un roman.
C'est ce qui a marqué tout le monde.
Voilà, on est dans un roman qui est tout à fait. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que la mort de la mère. La mort, c'est une anecdote dans le livre. Après, c'est vrai que cette histoire, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, en fait, c'est un truc qui est difficilement supportable, c'est que le roman lui-même a été auto-daffé en 1933.
Voilà, il faut expliquer, voilà. Auteur et, juif, et viennois, voilà, et expatrié en Suisse.
Voilà, d'ailleurs. Exactement. Et donc, je trouve qu'en résonance avec la société actuelle, le fait de censurer quelque chose, ça m'a. Je me suis dit, faut en parler. Faut parler de cette histoire, et c'est vrai qu'on a Walt Disney, mais que le roman est beaucoup plus plus intéressant, on va dire moins.
Bon, c'est un hold-up voilà. Walt Disney. Hein
ah, c'est un hold-up.
Frédéric, il a déjà l'acquisition. Enfin, il était un peu désespéré, hein, l'auteur du livre.
Il avait besoin d'argent.
Fin de vie, il avait besoin d'argent. Les droits ont coûté très peu cher. Ouais. Et puis, ce film, en 1942, a complètement occulté le livre.
Occulté, et oui, pour 1000 francs. Je pense que malheureusement Félix Salten n'a pas bien vécu à la fin de sa vie. Il a fallu qu'il travaille, qu'il fasse beaucoup d'écrits. Parfois, c'est aussi un personnage un peu trouble. Le fait qu'on censure une œuvre comme celle-ci en disant que les Allemands seraient les chasseurs et que c'est un peu, bon voilà,
c'est étrange.
Moi, j'ai pas eu cette lecture-là.
Lui-même est chasseur, donc. C'est une espèce de confrontation.
Donc c'est pas forcément les méchants, les chasseurs.
De la vie, on dirait plutôt.
Laissez parler Frédéric un peu. cet ancien disciple qui monopole le crachoir, c'est fou ça.
Non, c'est justement, moi je suis invitée et je me laisse bercer par ces thèmes communs. Mais voilà, dans le livre de Salten, c'est quand même tous les thèmes un peu de la vie avec leur ambivalence. Il y a une ambiguïté entre le fait d'être chasseur et de parler avec la forêt. Mmh.
Voilà. Vous êtes des personnages de nature. Vous êtes tous les deux parisiens, hein, je crois.
Moi, je suis né à Paris.
Parce que moi, il y a un truc qui me frappe aussi quand je vois l'aspect foisonnant. Alors moi, depuis que j'ai un petit chien, je vais beaucoup me balader dans la nature. Et l'empreinte de l'homme est partout. Et le foisonnement, tel qu'on le voit chez vous, tel qu'on le voit chez le douanier Rousseau, par exemple, même si c'est un peu plus exotique, il n'existe plus vraiment. On n'entend plus tellement de bruit. Les animaux se sont retirés, on les a chassés loin. Y a un rapport à la nature chez vous ou il est imaginaire, il est lointain?
Alors il y a un rapport à la nature parce qu'en fait je vis à Paris, mais je pars en vacances, je voyage, je vois les voilà. Alors c'est vrai que la nature, c'est plus à Paris, c'est plus dans les parcs, etc. Mais il y a un côté très fantasmé parce que c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu de façon au quotidien. Voilà, je suis suffisamment voyagé pour un peu.
Bon, je vous fais pas de procès en citadin qui aurait pas le droit de parler de la nature. Vous nous proposez de très belles images hein, qui font appel à notre imaginaire d'ailleurs pour figurer ces murmures de la forêt. Moi j'ai une petite suggestion. Vous avez d'autres univers qui vous, parce que là je regarde et j'ai vu il y a un autre centenaire l'année prochaine. Il faudra bosser vite parce que c'est l'année prochaine. L'enfant et les sortilèges de Ravel. Je sais pas si vous connaissez cette œuvre. Il faut vous y intéresser. Ouais. Votre univers irait tellement bien avec ça.
Voilà. Ok, très bien.
Bon, il faut bosser là-dessus.
Ok.
Vous reviendrez.
Alors, j'ai déjà deux petits projets, mais je note.
Bon, cette exposition, Les Murmures de la Forêt, jusqu'au 12 juillet, au Théâtre du Crocheton, la Galerie du Crocheton. Vous verrez, c'est très, très beau. Voilà.
Merci. Radio Chablais, programme de nuit.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, des fois, c'est pas bien de traduire les chansons d'amour. C'est pas... Non, parce que si, par exemple, je te dis... éteins les lumières, n'essaye jamais de te résister, oh non. Oh, laisse l'amour venir briller dedans nos vies, encore. Pendant que je dis, je t'aime, et je veux que tu le saches maintenant. Oh, je t'aime, je veux te donner de l'amour, je veux te donner du bon amour. On est d'accord qu'il y a un truc avec notre slogan à nous, là. Suivez-nous, on vous suit. Un truc un peu inquiétant. Alors que pourtant, la chanson, à la base, elle est magnifique. Bon, on va l'écouter. Hein. C'était... Des fois, c'est pas bien de traduire les chansons d'amour. Même pas bien du tout.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Philippe Duvanel, directeur ici du château de Saint-Maurice, nouvelle expo ZEP installée depuis quelques jours maintenant. Alors, pourquoi déjà ZEP? Est-ce que c'était normal? C'était un vœu longtemps attendu?
Oui, c'est vrai, depuis le début que j'ai pris les fonctions au château de Saint-Maurice, je voulais faire une exposition autour de ZEP et je suis ravi de pouvoir la faire.
Zep, bien sûr, c'est Titeuf, mais en fait, on découvre ici, dans l'exposition à Saint-Maurice, beaucoup plus que Titeuf. Il est sorti, bien sûr, de son personnage, il a su nous montrer d'autres choses, et en fait, c'est un personnage, Zep lui-même, multifacette, multitalent, multi-esprit.
Oui, c'était le but de l'exposition, de montrer effectivement ces multifacettes, de regarder Zep autrement que par le prisme de Titeuf, mais regarder aussi ses dessins d'observation, ses dessins d'arbres, ses récits en dessin réaliste, ou alors finalement son humour pour les grands à travers Episex, Epiparents ou alors Epiwork.
Parce que justement, on a l'impression que Zep peut parler de tout avec une vraie tendresse, une vraie humanité, puis une vraie vérité.
Et une vraie simplicité, absolument. C'est un homme très sincère dans son travail et dans le regard qu'il porte sur l'être humain. Il a beaucoup de bienveillance et puis il le regarde avec beaucoup de douceur.
Et puis alors, il le regarde avec beaucoup de douceur, mais aussi, bien sûr, avec un esprit critique, une grande intelligence. Là aussi, on découvre ça, bien sûr, quand on sait lire Titeuf entre les lignes, mais aussi quand on lit l'autre univers de Zep, les autres univers de Zep.
Oui, Titeuf, c'est pas uniquement une littérature pour les enfants, bien au contraire, moi, c'est multigénérationnel. C'est vraiment quelque chose qui raconte beaucoup de choses sur la vie, sur l'existence, sur la faille, sur la solitude de l'enfance. Et puis tout le reste de son œuvre à Philippe, effectivement, c'est bienveillant, mais c'est jamais non plus niais. C'est même très critique et ça peut tout d'un coup être vraiment des coups de gueule contre quelque chose qui le touche profondément.
C'est quoi le premier souvenir de Zep pour vous? Est-ce que c'est Titeuf? Ou vous qui êtes un passionné de BD, il y avait peut-être d'autres choses? Ici, c'est Titeuf. C'était quoi le premier souvenir de Titeuf?